sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Mardi 21 juin 2011, l'Académie des sciences a accueilli 21 nouveaux membres. Cette séance solennelle, dirigée par Alain Carpentier, président de l'Académie des sciences, s'est clôturée par le discours de Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences. Le mythe a envahi la littérature, l'histoire et bien d'autres domaines encore. Et si la science avait ses propres mythes ? Avec son discours intitulé « Pourquoi le mythe nano ?», l'académicienne revient sur ce préfixe « nano » derrière lequel se cachent bien des fantasmes. Parce qu'elles ne se voient pas à l'œil nu, les nanoparticules ont un grand impact sur notre imaginaire. Mythe ou réalité, rendez-vous tout de suite sous la coupole en compagnie de Catherine Bréchignac.
Pour clore cette séance solennelle d'installation des nouveaux membres de l'Académie des sciences, j'ai choisi de vous raconter une histoire. Pourquoi le mythe nano ? Le mythe est une parole, écrit Roland Barthes dans son ouvrage Mythologie. Tirant son origine du mot grec mutos, le mot mythe est apparu en français au milieu du XIXe siècle. Il recouvre aujourd'hui un concept complexe dont le sens diffère de celui des anciens. De nombreuses études ont finalement convergé sur le fait que mutos et logos ne recouvrent pas deux formes opposées de la parole dont le logos serait la raison, mais plutôt deux formes complémentaires qui ont conduit au discours argumenté. La parole, de nos jours, a été savamment engendrée par mutos et logos pour construire une pensée au travers d'un langage. Le mythe est une parole, mais ce n'est pas n'importe quelle parole. Comme toute parole, il a une forme et un contenu. Pour définir le mythe, on peut s'intéresser à son contraire. Le langage mathématique, dont la structure rigide et indéformable ne laisse aucune place à l'interprétation personnelle, en est un. Ce langage-là est exempt d'émotion. Le mythe, au contraire, est une parole dont la forme est labile et le contenu un savoir confus formé d'associations. Il exacerbe en revanche l'émotivité. En ce sens, le mythe a une valeur sociétale incontestable. Le mythe a tout envahi. Il fut longtemps confiné au sacré. Dans Aspect du mythe, Mircea Eliade propose « Le mythe raconte une histoire sacrée ». Il relate un événement qui eut lieu dans un temps primordial, le temps fabuleux des commencements. Le mythe raconte, le mythe révèle, et Lévi-Strauss de dire « quand un mythe est raconté, les auditeurs individuels reçoivent un message qui ne vient à proprement parler de nulle part ». C'est la raison pour laquelle on lui assigne une origine surnaturelle. Puis le mythe a dépeint certains comportements humains, le mythe d'Œdipe, le mythe de Don Juan, le mythe de Prométhée, qui devient pour Gaston Bachelard, dans la psychanalyse du feu, le complexe de Prométhée. Le mythe s'est étendu aux choses, la littérature s'en est emparée. La science a longtemps résisté au mythe. Bachelard voyait dans le signifié d'un mythe une explication pré-scientifique à des phénomènes incompréhensibles. La science, qui par essence est le savoir, excluait le mythe. Mais depuis que la société réclame que celle-ci soit vulgarisée et que l'on se doit pour le faire de quitter le langage scientifique pour utiliser des métaphores, alors le mythe envahit aussi le monde scientifique. Et à mon sens, cela devient dangereux à la fois pour la pensée qui perd en précision, en acuité et pour les conséquences que ce mélange entre raison et fiction engendre sur le comportement de nos sociétés. Le préfixe nano, quant à lui, signifie un milliardième. Un nanomètre est un milliardième de mètre. Des particules de taille nanométrique, appelées depuis quelques dizaines d'années pour faire court nanoparticules, existent depuis toujours à l'état naturel. Elles existent dans l'espace qui sépare les étoiles sous forme de grains, majoritairement composés de matière carbonée ou de silicate, et dont les dimensions varient de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres. Ces grains de matière produits par des étoiles en fin de vie sont des lieux privilégiés des réactions physico-chimiques du milieu interstellaire. Dans l'atmosphère terrestre, les petites particules proviennent des volcans, de l'érosion portée par le vent, de la combustion. Elles constituent les germes pour la nucléation hétérogène de la vapeur d'eau qui se condense en pluie. Ce sont des poussières de poussière. Dans les villes, on compte 10 à 20 millions de particules nanométriques par litre d'air. On commença à les étudier il y a environ un siècle lorsque Gustave Mie élabora en 1908 la théorie de la diffusion de la lumière par des poussières de dimensions comparables à la longueur d'onde de la lumière diffusée. L'analyse de cette dernière permet de remonter à la taille des particules et ce fut longtemps la seule méthode pour mesurer les dimensions des corpuscules nanométriques composant les aérosols. C'est grâce aux progrès technologiques de l'instrumentation scientifique, des microscopes électroniques, des spectromètres de masse, des jets supersoniques, que les scientifiques ont pu observer, créer et étudier ces nanoparticules. Dans la fin des années 70, avant l'utilisation intempestive du vocable « nano », l'idée était de construire de la matière atome par atome afin d'établir un pont entre ces deux états que sont la phase gazeuse et la matière condensée. Combien d'atomes faut-il pour construire un petit morceau de solide ayant un comportement macroscopique ? La réponse dépend de la propriété que l'on étudie. Mais d'une manière générale, la portée de la propriété étudiée doit être inférieure aux dimensions de l'objet. Dans le cas contraire, les effets quantiques de taille dominent. Les particules ne se comportent plus comme un petit morceau de solide, les lois de l'échelle ne sont plus valables. C'est le domaine de taille où chaque atome compte. Comprendre les propriétés fondamentales de la matière à cette échelle, là où la surface et la forme de l'objet jouent un rôle dominant devant son volume, devient un enjeu pour la connaissance de la matière. Tel est le cas du carbone que nous connaissions bien sous ses deux formes, graphite et diamant. À l'échelle nanométrique, les atomes de carbone s'organisent en sphères, en tubes, en cornets, et un feuillet de graphite isolé, le graphène, a des propriétés conductrices très différentes de celles du solide. C'est aussi le cas des métaux, qui à très petite échelle ont une couleur, engendrée par l'excitation collective des électrons confinés dans le volume de l'agrégat. Le verre est un bon exemple de matériaux où sont exploitées les propriétés des agrégats métalliques. Mais ce n'est pas nouveau. Depuis le Moyen-Âge, la couleur d'un rouge profond de certains vitraux de cathédrales fut obtenue par des maîtres verriers qui ajoutaient au verre de la poussière de poussière d'or. Il est remarquable sur cet exemple de noter que la technologie précède parfois la science. Le savoir-faire précède le savoir. L'inverse est aussi vrai. De nos jours, la compréhension des propriétés des agrégats métalliques a induit de nouvelles technologies du verre. C'est le cas des verres optiques photochromes. Ils contiennent des agrégats de taille nanométrique composés de sel d'argent qui se dissocient sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil et se recombinent à l'ombre. Un fin dépôt d'oxyde de titane détruit des traces de graisse par réaction photochimique sous l'effet d'un rayonnement solaire. Ce sont les verres auto-nettoyants. Pendant que les scientifiques essayaient de comprendre les propriétés de la matière divisée à l'échelle du nanomètre, la force motrice de la technologie a été de réduire la taille des systèmes. Lorsqu'au congrès de l'American Physical Society en 1959, Richard Feynman, dans sa célèbre conférence « Plenty of Room at the Bottom », pose la question « Ne peut-on pas écrire les 24 volumes de l'Encyclopédia Britannica dans une tête d'épingle ?» Ce n'était pas de la fiction. Cela voulait dire réduire de 25 000 fois les écrits de l'Encyclopédia Britannica, sans imaginer naturellement n'enfreindre aucune loi physique. Il a calculé combien de lettres étaient contenues dans l'encyclopédie, combien de bits d'informations cela représentait, et a trouvé que si chaque bit pouvait être contenu dans 100 atomes, soit quelques nanomètres, cela devenait possible. L'idée était de rendre aisément transportable cette connaissance, ce qu'avec nos iPods actuels sommes capables de faire. Cependant, la réponse à la question de Feynman ne s'est pas résumée à changer de support et à réduire proportionnellement les dimensions pour stocker un bit d'information dans 100 atomes de support. Il fallut tenir compte du fait que la miniaturisation des systèmes commence à atteindre ses limites fondamentales lorsque les propriétés des éléments constitutifs des systèmes varient avec la taille. Et c'est grâce à la découverte en 1988 de la magnétorésistance géante, engendrée par une structure sandwich comprenant deux couches ferromagnétiques, séparées entre elles par une feuille de quelques nanomètres d'épaisseur de métal non magnétique, qu'il fut possible de détecter, avec une grande sensibilité, de petits champs magnétiques engendrés par des inscriptions sur un disque dur et d'augmenter considérablement la densité d'informations stockées. 10 ans plus tard, en 1997, toutes les têtes de lecture de disques durs utilisent la magnétorésistance géante. À diminuer les dimensions des systèmes pour résoudre les défis technologiques, à comprendre au niveau conceptuel la complexité de petits objets en construisant la matière atome par atome, ces deux approches convergent dans le domaine du nanomètre, celui-là même des molécules biologiques. C'est l'existence de ce point de convergence en taille qui rend possible d'associer nano-objets, nano-systèmes et molécules biologiques. Que peut-on faire de cette compatibilité ? Une des possibilités appartient au domaine médical et a pour but de permettre la vectorisation des médicaments. Plutôt qu'administrer directement le médicament et de le laisser circuler dans tout le corps, ce qui peut provoquer des effets secondaires néfastes, il peut être préférable d'incorporer ces molécules actives dans des particules bioadhésives capables de reconnaître les protéines de la cellule ciblée. La cible atteinte, le médicament pourra se libérer continuellement à travers la membrane de la cellule et aura une efficacité ciblée avec une dose réduite. C'est aujourd'hui un défi technologique que de trouver les bonnes particules qui s'adaptent aux cellules. Mais pourquoi donc le mythe nano ? Le mythe est une parole, le nanomètre à milliardième de mètre. Un nanomètre ne se voit pas à l'œil nu. Si les chercheurs d'aujourd'hui ont l'habitude de travailler sur des objets qu'ils ne voient qu'à travers leurs effets, l'acceptabilité par la société de faire de même suscite des craintes. Le mythe eut une parole. Et en ce qui concerne les nanos, ce fut une hémorragie de paroles qui commença en 1986 avec la publication du livre d'Eric Drexler, Engine of Creation. Livre qui dépeint l'avènement d'un monde nouveau, car selon lui, la manipulation de la matière au niveau de l'atome peut créer d'abord un futur d'abondance utopique, où tout pourrait être rendu meilleur par chez, et où tous les problèmes seraient résolus à l'aide de nanotechnologies et d'intelligence artificielle. Il dit ceci : un dispositif de quelques nanomètres pourrait s'introduire dans le corps sans rien endommager. Muni de capteurs, il pourrait renvoyer aux médecins des images précises facilitant le diagnostic. Des nanorobots injectables dans le corps humain pourraient également soigner. Puis, dans le livre, il évoque la possibilité d'assembleurs capables de se reproduire eux-mêmes, engloutissant tout sur la Terre, la transformant en gelée grise. Le passage de la description scientifique à l'extrapolation du possible, puis à la science-fiction, est flou et présente un danger pour un lecteur non averti. Savoir confus, formé d'associations, le terrain est propice pour la naissance d'un mythe. Parce qu'on ne les voit pas et qu'elles réagissent, les nanoparticules ont un grand impact sur notre imaginaire. Et voilà que le préfixe nano est devenu adjectif, puis substantif, uniquement de bouche à oreille. Voilà que chacun s'en est emparé, en y mettant une signification qui lui est propre. Voilà que chacun laisse parler son imaginaire, d'abord sous la forme interrogative, puis narrative, sur les bons et les mauvais aspects que lui suggèrent les nanos. Bref, le mythe nano s'est installé dans la société et par les voies de communication contemporaines, la parole va bon train. Mais qui eut intérêt à ce déluge de paroles ? Tout le monde trouva intérêt au mythe nano. Ceux qui y croient comme ceux qui n'y croient pas. Les décideurs qui pensent accélérer les recherches technologiques pour leur rentabilité économique et la création de nouveaux marchés. Les chercheurs eux-mêmes qui ont laissé dire que les nanos étaient la panacée pour récupérer, au bénéfice de leur recherche, la manne financière fléchée par les décideurs. Les médias qui aiment à raconter des histoires qui font peur et qui vivent des histoires qu'ils racontent et de la peur qu'elles engendrent. Mais écoutons plutôt Scheherazade conter une nuit au sultan la fable du pêcheur et du génie. Un pêcheur qui jetait quotidiennement son filet à la mer par 4 fois pour nourrir sa famille des produits de sa pêche, se trouva désemparé lorsqu'un jour, après 3 coups de filet infructueux, il ramena au 4e une amphore. « Je vendrai cette amphore au marché, et avec l'argent de la vente, j'achèterai du poisson », pensa-t-il. Mais avant de la vendre, voyons ce qu'elle contient. Dès qu'il eut ouvert le bouchon qui portait le sceau du roi Salomon, une abondante fumée sombre se mit à s'échapper du vase pour se répandre largement au-dessus de la mer et prendre l'aspect d'un énorme génie menaçant. « Pendant des siècles, s'écria le génie, je suis resté emprisonné dans ce vase au fond de la mer pour avoir désobéi au roi Salomon. Et maintenant que je suis libéré, je t'accorde, ô pêcheur, le droit de faire un vœu avant de mourir. » Le pêcheur, tremblant de peur à l'idée de mourir, rassembla toute son intelligence et dit au génie, « Prouve-moi qu'un être aussi formidable que toi peut vraiment tenir dans un si petit vase. » Vaniteux, pour montrer que tout lui était possible, le génie se dilua en fumée et la fumée disparut dans le petit vase. Aussitôt, le pêcheur bondit et enfonça profondément le bouchon avant de rejeter l'amphore à la mer. Comme le pêcheur, il faut raison garder et ne pas laisser se dilater le mythe nano qui, en envahissant tout, perd en signification. Mieux vaut comprendre, créer, utiliser la matière à cette échelle intermédiaire qui, aussi fascinante soit-elle, se doit être expliquée avec un esprit rationnel et les technologies qu'elle engendre évaluées en comparant leurs bénéfices et leurs risques pour une utilisation à bon escient. Loin de transformer l'homme en esclave des nouvelles technologies, celles-ci doivent être au service de l'homme pour l'aider, améliorer son environnement et lui laisser le temps de penser. L'angélisme n'étant pas de ce monde, l'esprit critique est de rigueur. Pour conclure, je citerai une phrase de Victor Hugo, tirée des dernières pages du livre Claude Gueux, où après l'exécution de celui-ci, une réflexion s'établit sur 2 questions de société, question de la pénalité et question de l'éducation. « Quand la France saura lire, disait Victor Hugo, ne laissez pas sans direction cette intelligence que vous aurez développée. Ce serait un autre désordre. L'ignorance vaut encore mieux que la mauvaise science. » Fin de citation. Il est vrai, l'ignorance peut être combattue par l'éducation, mais la mauvaise science engendre l'idéologie et rend arrogant et nuisible celui qui s'en sert. Je vous remercie.
Vous venez d'écouter le discours que Catherine Bréchignac, secrétaire perpétuelle de l'Académie des sciences, a tenu lors de la séance solennelle de l'Académie des sciences le mardi 21 juin 2011. Ce même jour, Jean-François Bach, également secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, a prononcé un discours intitulé « L'erreur scientifique ». En décrivant quelles formes peuvent prendre les erreurs dans le domaine de la science, l'académicien rappelle que l'erreur est humaine et que les scientifiques n'y échappent pas. Pour découvrir ce discours, rendez-vous dans la série des émissions intitulée « Sous la coupole ».